des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin.
Nous avons commencé cette série d'émissions en parlant du bénévolat, une expérience partagée par des millions de personnes qui régulièrement donnent de leur temps, de leurs compétences, gratuitement, en tout cas sans contrepartie financière, pour les autres. Et au bout de ces émissions, nous en sommes venus à parler de la relation au sens de Martin Buber, c'est-à-dire de la rencontre de deux individus, rencontre fortuite, ponctuelle, un genre de face-à-face où quelque chose se passe, quelque chose de difficile à définir, mais qui est le sommet de la condition humaine. Certes, ces rencontres peuvent potentiellement se passer n'importe où, avec n'importe qui, mais nous avons vu que dans le cas du bénévolat, de cette main tendue d'un je vers un tu, pour reprendre le vocabulaire bubérien, les conditions mises en place, comme la gratuité, le hasard et une nécessaire volonté d'ouverture, étaient on ne peut plus propices à cette relation. Une relation qui prend un sens encore plus fort quand il s'agit de bénévolat, disons social, comme celui pratiqué dans le cadre de l'association Jalmav, jusqu'à la mort, accompagner la vie, association dont vous avez créé l'antenne eurélienne, docteur Dominique Demichel, et qui propose un accompagnement aux personnes en fin de vie. Mais j'ai trop parlé et je vous laisse de rechef la parole, Dominique, avec cette première question. Ce que font les bénévoles à Jalmav, par exemple, ils sont les seuls à le faire. Il n'y a pas de métier, me semble-t-il, qui consisterait à passer du temps sans compter avec des personnes en fin de vie pour écouter leur histoire et partager leur silence.
Oui, c'est vrai. Il y a des biographes, par exemple, hein, qui viennent...
Sont salariés ?
Il y a une biographe, en tout cas, à l'hôpital de Chartres, qui n'est pas salariée de l'hôpital, mais qui est... payé par le biais d'une sorte de donation. Quoi. Il y a une association qui recueille des dons. Ouais. Voilà, elle est payée pour ça. Mais son travail est essentiellement de recueillir le récit, de le mettre en texte, et puis ensuite de l'imprimer et de le donner à la famille ou à l'individu ou à la famille si la personne est décédée. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus du côté de l'objet, hein, c'est-à-dire d'une fonction particulière, recueillir un récit. Évidemment, ce récit, ça n'est pas que un objet. C'est évidemment, comme vous le disiez dans votre introduction, c'est une relation. Le travail des bénévoles est un travail quand même beaucoup, beaucoup plus du côté de l'échange, même si cet échange repose sur l'un qui parle et l'autre qui écoute. Hein. Et c'est toute l'histoire de l'énigme du don, hein, dont il faut bien rappeler qu'il est une forme particulière de l'échange et que dans tout don, il y a toujours un contre-don. Et s'il n'y a pas de contre-don, c'est probablement particulièrement suspect parce que ça reviendrait à une sorte de nécessité impérieuse de donner. Et comme disait Nietzsche à propos de la foi, les hommes qui ont le besoin impérieux d'une foi ont probablement une foi pas très très puissante. Hein, voilà. Donc c'est cette nécessité légère de donner et cette expérience que le contre-don est souvent aussi ample et aussi généreux que le don qui fait que les bénévoles de Jalmav peuvent continuer pendant souvent plusieurs mois ou plusieurs années ce travail-là.
Mais le bénévolat... en règle générale, répond donc à un manque. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas tous ces bénévoles, il manquerait quelque chose, par exemple, à l'hôpital, quoi.
Dans les
secteurs de fin de vie.
Je pense que le rapport de la médecine est un rapport au corps, c'est-à-dire un rapport au faire et à un savoir-faire. Mais il n'est pas du côté de l'être. Hein. Ceux qui traitent de l'être... ça relève de la psychiatrie le plus souvent et ça relève de la maladie, mais de la maladie mentale par exemple. Mais les personnes qui sont en fin de vie n'ont bien évidemment aucune maladie mentale. Juste, ils vivent une expérience unique qui n'est pas partageable, hein, puisque les mourants ne viennent pas en parler autrement que dans leur relation et les morts bien évidemment ne reviennent pas parler de ce qu'ils ont vécu. Hein. Donc en effet, comme vous le dites, ces bénévoles remplissent une fonction qui est une fonction du côté de l'être, parce que l'hôpital s'occupe relativement peu de l'être.
Alors, c'est un défaut, ça, de l'hôpital. Alors, c'est un autre sujet, mais Est-ce un défaut de l'hôpital ? Parce que ma grande question, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ferait finalement sans tous ces bénévoles qui occupent des places, quelque part irremplaçables, en tout cas qui ne seraient pas forcément remplacées en France et partout dans le monde ?
Alors, il y a un côté caricatural quand je dis que l'hôpital ne s'occupe que de l'objet corps, par exemple. Parce que les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, et beaucoup, par exemple, les aides-soignantes, sont dans un espace relationnel. C'est-à-dire, leur façon de prendre soin et en même temps de donner du soin, c'est d'être dans la relation. Et cette relation est tout à fait fondamentale. Une des caractéristiques de ces situations, on pourrait dire limites, que ce sont les situations de deuil, comme on en a parlé, ou les situations en fin de vie, c'est que là, il y a quelque chose qui est tout à fait particulier. C'est pas du tout la même chose de venir parce qu'on a une pneumonie, une appendicite ou des calculs dans la vésicule et qu'on va devoir être soigné, traité, voire opéré, par exemple, et de venir parce qu'on vient pour terminer sa vie. Hein. Donc, en effet, compte tenu, j'allais dire, du contexte particulier ou du deuil, ou qui peut entraîner, par exemple, un syndrome dépressif profond et prolongé, ou de la fin de vie, il y a une sorte de cadre ontologique, un cadre d'être pour lequel, en effet, l'hôpital n'est absolument pas préparé. Probablement parce que ça ne relève pas, au fond, d'une souffrance psychique dans le sens d'une maladie psychique, donc ça ne relève pas du travail des psychologues ou des psychiatres. Et, en effet, c'est la société civile qui a fait émerger. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a un parallèle entre le déni de la mort, le refus de la mort, l'occultation de la mort, le fait que les mourants vont être envoyés dans l'hôpital et qu'ils ne vont plus mourir chez eux, c'est-à-dire où il va y avoir au fond une désappropriation du mourir par la famille, pas pour des raisons, on pourrait dire, négatives, hein, qui est que quand on habite dans un deux pièces, dans une HLM, dans une banlieue de ville, on ne peut pas accueillir ses parents qui sont en fin de vie. Hein. Parfois, ce n'est pas du tout matériellement possible. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. L'hôpital a donc accueilli toutes ces personnes-là et la société a fait émerger, au fond, tout ce mouvement qu'on a appelé le mouvement des soins palliatifs, avec en particulier la place des bénévoles.
Ouais. Mais si on élargit un tout petit peu au monde associatif en général, on va parler du social peut-être, c'est aussi, ça a toujours été un petit peu une forme de bénévolat, par exemple, de s'occuper des pauvres, même il y a très longtemps. Alors évidemment, c'était des gens riches qui le faisaient parce qu'ils avaient les possibilités, mais c'est quelque chose de naturel.
Oui, je pense que dans ce sentiment de proximité vis-à-vis de l'autre, hein, dans cette projection sur l'autre d'une part de nous-mêmes, il y a bien l'idée que je pourrais être à la place de cet autre, au fond. Hein, c'est la Bruyère qui dit d'ailleurs, c'est une phrase comme ça, il y a une certaine honte à être heureux à la vue de certaines misères. Hein, c'est-à-dire, on voit bien que dans ce processus de compassion, il y a quelque chose qui nous concerne. C'est-à-dire, ça n'est pas totalement l'étranger. Et comme cet étranger peut devenir notre proche, alors on s'occupe du prochain. Hein. Dans une perspective, par exemple, chrétienne, le prochain, c'est celui qui est proche et celui, au fond, qu'on va accueillir. Hein. Donc je crois que, en effet, il y a quelque chose dans l'âme humaine, quand même, qui fait qu'on va s'occuper du blessé, on va s'occuper du mourant. Pour des raisons, on pourrait dire morales, mais vous savez, la morale, elle est quand même fondée d'abord sur le fait que quand on vit dans un état ou dans une situation où il y a de la morale, c'est plus confortable que quand il n'y en a pas.
Ouais. Docteur Dominique Michel, je voulais revenir dans cette dernière émission sur le bénévolat, sur la responsabilité qui pèse sur les associations et les bénévoles. Responsabilité envers leurs employés. Je rappelle qu'il y a 170 000 associations en France qui sont employeuses et envers évidemment les bénéficiaires. Parce que ce n'est pas rien quand il s'agit par exemple de trouver un logement, un emploi, d'aide administrative ou encore avec Jalmav, ce n'est pas rien de s'occuper de personnes en fin de vie.
Non, c'est pas rien du tout. D'autant que j'allais dire le champ du social classique est un champ qui a été balisé, dans lequel il y a une expérience, il y a un savoir, il y a un savoir-faire, il y a probablement même un savoir-être. Hein. Par exemple, les assistantes sociales apprennent à se protéger, apprennent à tenir bon, à ne pas se laisser envahir, ni par la misère du monde, ni par la violence du monde qui peut leur être adressée. Pour ce qu'il en est du mourir, voilà, d'abord, il y a jusqu'à une période récente relativement peu d'écrits là-dessus, il y a peu de partage d'expérience. Donc, en effet, c'est quelque chose de plus difficile. Ce qui est une caractéristique importante, c'est que les bénévoles interviennent, on en a déjà parlé lors des émissions précédentes, interviennent dans le cadre d'une association. Et c'est au fond ce lien horizontal, c'est-à-dire, on pourrait dire ce lien d'immanence, finalement, ce lien presque fraternel entre les bénévoles de Jalmav, qui leur permet d'accueillir cette question ontologique, qu'est-ce que c'est que le mourir, et quel est le sens de la vie, pourquoi est-ce que je suis là, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que j'ai fait de mon existence, toutes ces grandes questions existentielles qui arrivent en fin de vie en général.
Ouais. Alors nous l'avons vu également, être bénévole demande de véritables compétences et en même temps l'établissement d'une véritable relation, elle tient à rien. C'est-à-dire qu'établir une telle relation n'a rien à voir avec un quelconque savoir-faire. Donc on a ces deux pendants, d'un côté un savoir-faire, et ça vous nous l'avez dit, les associations proposent très généralement des formations,
ouais.
Et en même temps cette relation qui est l'aboutissement du bénévolat, elle tient à rien, elle est sur un fil et elle ne demande aucun savoir-faire.
Je pense que ce qui est déterminant, en tout cas, dans la qualité de la relation du bénévole accompagnant auprès du mourant, c'est la relation qu'il a avec lui-même. C'est ça qui est déterminant. C'est-à-dire, pour accompagner une personne dans une situation difficile, il faut déjà que cette situation difficile ne nous effraie pas. Bon, voilà. Si on a trop peur du mourir ou encore plus de la mort, on ne peut pas faire cette activité-là. La deuxième chose, c'est que, indépendamment du rapport au mourir ou à la mort, il y a la question de l'angoisse qui habite au fond tout individu. Et il me semble que les bénévoles accompagnants doivent avoir fait un certain parcours par rapport au contact qu'ils ont avec leur propre angoisse. Je ne sais plus qui dit ça, mais l'angoisse et la mort sont les deux aiguillons fondamentaux de l'existence humaine. C'est-à-dire, et probablement, l'angoisse, c'est toujours une angoisse du changement, et le changement le plus ultime, c'est quand même le passage de la vie à la mort, ici. Voilà, alors il y a cette dimension-là qui est sûrement importante. Il y en a une autre qui est probablement aussi tout à fait essentielle, qui est, comment je pourrais dire ça, c'est un peu compliqué, peut-être surtout dans une radio comme celle-ci, de le dire, qui est probablement la dimension spirituelle de l'accompagnement. Je crois qu'on en a relativement peu parlé dans les émissions précédentes, mais il me semble en tout cas que la majorité des bénévoles accompagnants sont habités par cette question de l'espace spirituel, c'est-à-dire certes de l'espace de l'esprit, mais aussi du questionnement sur le sens de la vie, sur d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, quel est le sens de l'existence, est-ce que la question de Dieu se pose ou non. Il faut rappeler que les bénévoles ne dispensent aucune parole, quelle qu'elle soit, encore moins une parole religieuse ou philosophique, par exemple. Il s'agit juste là d'être dans une forme de présence à soi-même où ce travail d'interrogation spirituelle sert en quelque sorte de matrice et d'espace d'accueil des questions existentielles de l'autre. Parce que ces questions existentielles sont de nature spirituelle, au fond. C'est-à-dire, elles concernent aussi le charnel, le corps, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, comment je vais mourir, par exemple, dans le sens le plus concret du terme. Moi, je me souviens avoir beaucoup de patients qui me posaient cette question. Docteur, comment ça se passe quand on meurt? Voilà. Ben, j'étais en gros bien incapable de leur répondre, bien évidemment. Mais il y a surtout cette question, au fond, de l'esprit, de la conscience, au fond, on pourrait dire de l'âme.
Un autre aspect, une des caractéristiques majeures du bénévolat, c'est l'absence de compensation financière pour un travail parfois égal à celui d'un salarié. C'est cette gratuité eh bien, malgré tout, ça devient une richesse. Car les relations entre les bénévoles d'une association et ceux d'une entreprise, même si l'exigence, encore une fois, est parfois la même, sont tout à fait différentes. Donc c'est une richesse à la fois dans le milieu associatif lui-même, et vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est aussi une richesse avec ce que reçoit le bénévole du bénéficiaire.
On peut comparer, puisque vous convoquiez ici encore le milieu de l'entreprise, au fond, l'objectif de l'entreprise, c'est de produire. Hein, que ce soit un objet ou que ce soit un service, peu importe, c'est produire. Et les relations à l'intérieur de l'entreprise sont certes déterminées par les relations intersubjectives ou interhumaines classiques, mais l'objectif premier, c'est quand même la production. Et accessoirement la rentabilité. Alors, de temps en temps, la rentabilité est moins importante. Par exemple, dans le milieu du social, il faut d'abord que ça fonctionne, et puis on n'est pas là pour être rentable. À l'inverse, dans une dimension, dans l'espace de la famille, par exemple, il n'y a pas de productivité, hein, il n'y a pas de produit à faire à l'intérieur d'une famille. Ce qui compte, c'est le lien, c'est la qualité du lien. C'est pour ça qu'il y a une dimension, au fond, on pourrait dire fraternelle, hein, c'est-à-dire très horizontale, entre les bénévoles à l'intérieur de l'association, mais aussi une dimension un peu fraternelle, on pourrait dire, c'est-à-dire en tout cas sur un niveau horizontal, entre la personne accompagnée et puis l'accompagnant. Hein. Voilà. Et comme vous le disiez à juste titre, le contre-don, c'est ce que disent tous les bénévoles extrêmement rapidement quand ils commencent et qu'ils ont dépassé leurs inquiétudes, leur anxiété légitime et qu'ils ont travaillé avec leur propre angoisse et qu'ils ont pu tenir leur propre angoisse en quelque sorte en laisse, ils disent « mais c'est fou ce que ça m'apporte là ». Essentiellement d'ailleurs parce qu'on est dans les grandes questions éminemment essentielles de la vie.
Ouais. Alors, encore une fois, un petit peu contrairement à l'image que l'on pourrait avoir du monde et de la société, une image un petit peu dure et certainement tout à fait réelle, le bénévole, lui, n'est jamais contraint de poursuivre son activité. Et tout ce qu'il fait lui arrive en surcroît. Cela lui donne une grande liberté. Et en même temps, cela évite tout le cynisme de l'employé qui travaille, par exemple, dans une entreprise à la déontologie un petit peu douteuse, mais il continue néanmoins pour l'argent. Cette liberté du bénévolat, moi, ça me remplit d'optimisme quand je vois ça.
Alors, il y a, la liberté, c'est bien important de rappeler que la liberté, ça n'est pas « je fais ce que je veux ». La liberté, c'est « j'ai une loi intérieure, je l'ai choisie, je l'ai évaluée, et je suis obéissant à cette loi intérieure ». Alors cette loi intérieure, évidemment, elle est susceptible de variations. Elle bouge avec le temps, parce qu'on mûrit, parce que de temps en temps, on est particulièrement courageux, ou parce que de temps en temps, on est un petit peu lâche. Hein ? Donc par rapport à sa loi, on a un écart. Donc c'est bien important de penser aussi que pour le bénévole, il a aussi une sorte d'exigence éthique. Et on sait bien, par exemple, qu'un bénévole qui va accompagner Monsieur Dupont va sentir une nécessité intérieure d'accompagner Monsieur Dupont jusqu'à la mort de Monsieur Dupont, et parfois même un peu après, quand le bénévole a travaillé avec la famille. Donc on voit bien qu'ici, la loi n'est pas une loi entrepreneuriale. Monsieur, vous aviez un projet, on vous demande de terminer le projet, voilà, jusqu'à que le produit fini soit là sur la table, mais une sorte de, j'allais dire, d'éthique de la relation qui fait qu'il y a aussi une exigence. Hein. Donc il y a cette liberté qui se joue dans le sens où, évidemment, il n'y a pas de contrat de travail, mais il y a une sorte de contrat moral qui se joue pour une part avec l'association, mais là, l'association n'est pas contraignante, elle est juste porteuse. Mais il y a un contrat moral avec la personne que l'on accompagne qui n'est inscrit nulle part ailleurs que dans l'éthique de responsabilité du bénévole. Hein, vous voyez, qui le sent comme une évidence, c'est-à-dire, mais oui, mais j'ai parlé une heure avec Monsieur Dupont la dernière fois. Il me demande de revenir, je ne vais pas lui dire « ben non, non, j'ai toute liberté, vous savez, je suis bénévole, je fais ce que je veux ». Non, au nom de cette relation-là, il y a aussi une exigence.
Il y a cette responsabilité dont nous avons parlé évidemment tout à l'heure. Oui.
Oui.
Et c'est à se demander à quoi ressembleraient nos sociétés sans les bénévoles et les associations, c'est-à-dire sans cette immense liberté d'un don sans objectif de créer des richesses, Et bien sûr, dans le cadre législatif des associations, sinon ça serait très compliqué. Je n'enlève pas ce cadre législatif. Oui, oui.
Ce cadre législatif qui s'inscrit dans le cadre d'une convention entre une association et l'hôpital, par exemple, vous voyez. Mais je trouve que c'est très très intéressant que vous releviez au fond la richesse de ce bénévolat, hein, oui. Parce que c'est un espace d'être, quand bien même c'est aller faire je sais pas trop quoi, de l'alphabétisation auprès d'étrangers qui viennent en France, que ce soit de s'occuper du club de foot. Exactement. Que ce soit de s'occuper de la comptabilité de Radio Rancière, par exemple. Hein, voilà, parce que je crois que les comptables ici ne sont pas payés non plus. Hein, donc on voit bien que là, on sent qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'être, justement. Et que parce que, justement, il y a cette liberté, alors ça donne une sorte de préciosité au don et que ça apporte un contre-don qui est absolument fabuleux.
Oui, et ça répond aussi à tout l'autre pendant de notre société où on a l'impression que tout se marchande, oui. Et où tout n'est que recherche de production et de richesse.
Je pense d'ailleurs que... alors, j'en ferai pas une généralité, mais moi, j'ai, dans le cadre de mon expérience professionnelle, en tout cas, remarqué que plus le métier qu'un individu exerçait était dépourvu de sens, plus il avait une nécessité de s'inscrire ailleurs dans quelque chose qui faisait sens. Et ce qui fait sens, le plus souvent, ça se trouve justement dans, ouais, le bénévolat.
Quand le métier ne l'a pas encore détruit, malheureusement, évidemment. Oui,
absolument, ouais, ouais, ouais. Absolument, vous avez raison.
Mais pourtant, malgré cette gratuité, les associations, elles ont besoin d'argent pour fonctionner. Et les circuits de financement peuvent parfois aussi poser question. En tout cas, elles assujettissent quelque part les associations à une administration ou parfois à la bonne volonté de mécènes qui vont demander des garanties. Or, il est impossible de quantifier la richesse d'une relation entre le bénévole et le bénéficiaire, encore moins de la garantir. Et c'est justement là l'objectif ultime du bénévolat, un but. Cette relation dont je parle, hein, qui dépasse même les avancées concrètes comme l'obtention d'un emploi ou d'un logement. Je veux dire par là que, à la rigueur, un fonctionnaire peut s'occuper d'ailleurs de trouver un logement ou de trouver un emploi. Mais cette relation, comme nous l'avons dit, qui existe chez Chalmav, il n'y a pas de métier pour ça, parce que c'est effectivement... d'ailleurs, pourquoi il n'y aurait pas de métier pour ça, c'est aussi une question. Mais on comprend bien que passer du temps à écouter quelqu'un sans aucune contrepartie, sans aucune garantie que quelque chose se passe, que la relation s'établisse, ça peut paraître extrêmement difficile pour un employeur à quantifier et donc à rémunérer. On est vraiment dans un autre paradigme.
La reconnaissance du travail des bénévoles est quand même actée par le fait que une partie des frais de l'association est prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie. Hein. C'est-à-dire une partie des frais des bénévoles, en sachant que être bénévole en général, ça vous coûte à votre portefeuille propre, hein, à votre propre portefeuille. Hein. Mais quand même une partie, par exemple la participation au congrès annuel, certaines formations qui sont payantes, sont prises en charge pour une partie par la Caisse nationale d'assurance maladie, qui donc reconnaît, évidemment c'est dans le cadre d'une convention, il y a, comme vous dites, il y a un cadre législatif particulier. Donc, ça veut bien dire que là, il y a quand même, sur le plan sociétal, la reconnaissance de quelque chose qui n'est pas complètement gratuit, puisque si on entend la gratuité dans quelque chose qui serait presque superflu. Non. Parce qu'on associe souvent le gratuit avec le superflu.
Oui.
Mais ici, non, c'est pas du tout du côté du superflu. Donc vous avez raison, de temps en temps, les fonctionnements, c'est compliqué. Par exemple, à Chalmav, pendant longtemps, on a été aidé par une instance, on va pas la nommer, mais peu importe, qui nous permettait d'avoir une revue qui avait un certain contenu. Puis cette instance a arrêté son financement. Et ben, en gros, au lieu d'avoir 4 numéros par an, maintenant on en a un ou deux de temps en temps dans la meilleure des situations, où au lieu d'avoir 30 pages, on n'en a plus que 4, par exemple. C'est un petit peu comme ça. Mais globalement, je pense que... je n'ai jamais, en tout cas, entendu la moindre parole de bénévole dire « ça me coûte à mon porte-monnaie ». Non. Parce que, vraiment, ce supplément d'âme, ce supplément d'être, est tel que les gens, au fond, n'y pensent pas. Voilà. Mais c'est bien important aussi de se dire que ce travail-là, on ne le fait pas pendant 30 ans non plus. Hein. On le fait souvent pendant un certain temps, quelques années. Et puis au bout d'un certain temps, les bénévoles en général changent de registre, ils vont ailleurs.
Il faut savoir s'arrêter. Ce n'est pas forcément facile ça. Alors, dans cette dernière émission, comme vous l'avez vu, docteur Dominique Desmichets, je n'ai pas insisté sur la partie sombre du bénévolat. On en a parlé. Oui. Voilà. Mais par exemple, savoir s'arrêter, c'est parfois compliqué et ça peut poser problème.
Oui, alors le repérage, en tout cas, des moments d'épuisement ou les moments de fatigue, c'est un élément très important dans l'accompagnement associatif des bénévoles. Hein. La majorité des accompagnements sont retravaillés ou individuellement avec une ou deux personnes ou dans le cadre du groupe de parole. Et au sein des groupes de parole, le collectif, plus en général l'animateur qui a une sorte de savoir, on pourrait dire, là, ou de savoir-être, permet de repérer justement les moments où... Voilà. Mais étant donné que ça vient toucher l'être, les bénévoles en général savent repérer. Vous savez, j'utilise souvent ces trois mots, hein, toucher, troubler, bouleverser. Voilà. Si en gros on n'est pas touché par l'événement, alors il y a quand même des chances qu'on ne soit pas fait pour ce type de choses. Parce que, évidemment, ça vient percuter quelque chose de l'ordre de l'intime et puis de l'ordre de notre existence même. Dès qu'on commence à être un petit peu troublé, c'est-à-dire qu'on y pense le soir quand on rentre, que ça peut nous empêcher de dormir, qu'on peut avoir un peu mal au ventre, qu'on a envie d'y aller, mais en même temps, on n'a pas envie d'y aller, alors là, il faut travailler la situation. Et de temps en temps, on va prendre de la distance, ou de temps en temps, on va réajuster sa position, ou comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, quand on est bouleversé, eh ben là, j'allais dire, il faut prendre le large... pendant un certain temps, pendant un temps certain, ou parfois définitivement. Ouais.
Alors, prendre du recul, c'est un aspect qu'on n'a pas abordé, mais il est vrai que, je n'ai pas les chiffres, mais la grande majorité des bénévoles sont des retraités.
Oui, je pense que les retraités, bien évidemment, d'une part, ils ont du temps. Et puis deuxièmement, souvent, ils ont perdu quelque chose qui pouvait leur donner le sentiment d'exister, plus ou moins, avec plus ou moins de bonheur, de joie, etc. Parfois aussi, beaucoup de souffrance ou de peine, ils sont bien contents d'arrêter. Même s'ils ont eu beaucoup de bonheur d'ailleurs, mais aussi. Voilà. Par contre, nous, à Jalmav, en tout cas, on a eu régulièrement, en tout cas, des gens qui n'étaient pas retraités.
Oui, hein. C'est pas une généralité non plus.
Voilà.
Bien sûr,
et qui donnaient un petit peu de temps, voilà, de temps en temps, ça pouvait être entre 2 et 4 heures par mois, par exemple, vous voyez, hein, voilà. On voit quand même ça plus chez les gens qui ont une forme de liberté par rapport à leur emploi du temps, vous voyez, par exemple, hein. Les gens qui sont autonomes, il y a eu des agriculteurs, bon. Un peu plus d'agriculteurs, évidemment, en Eure-et-Loire que dans les Hauts-de-Seine. Mais voilà, donc des gens qui ont une certaine mobilité, qui peuvent ajuster en fonction de leur travail ou des saisons. Par exemple, pour les agriculteurs, évidemment, au mois de janvier, c'est pas la même chose qu'au mois de juillet. Hein.
Docteur Dominique Desmichets, un grand merci et à très bientôt sur les ondes de Radio Grand Ciel.
Et merci à vous, Simon. Au revoir à tous.